Berlin.
It's Morning Edition from NPR News.
Merci, Team Sandbeam, Berlin. Hallo,
I'm Radio Rosa,
Lapi,
Paris.
Borussia, Gette, Navarro.
France Inter. Le 18/20.
Après l'Europe, les États-Unis ont aussi annoncé leur premier train de sanctions contre la Russie. Mais des États-Unis peut-être un peu gênés, Joe Biden a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas que ces sanctions se retournent aussi contre les États-Unis. Il a sur le dos aussi les Républicains qui veulent qu'on frappe plus fort pour certains, ceux aussi qui voudraient qu'on se recentre sur les États-Unis en oubliant l'Ukraine, et on y vient dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est au Bénin, où enfin on a pu admirer là-bas les œuvres récemment rendues par la France. Isabelle Pasquet en revient et vous racontera. Le bruit du monde de la suite. Sous les radars, Sébastien Eugénie a trouvé cette petite dame qui vole dans un magasin Lidl en Grèce, et tout le pays qui prend fait et cause pour elle. L'Indonésie qui vend certaines de ses îles, et le contrat d'édition le plus dingue aux États-Unis, 15 millions de dollars. Vous verrez qui a des mémoires aussi lucratives. 18h50, c'est le cinéma en VO comme tous les mercredis. Alexis de Meyer a vu Les Poings desserrés. Ça se passe en Ossétie du Nord. C'est un film inter d'une jeune cinéaste russe. 18h55, Le Monde d'après de Franck Madvon, et le front bélarusse, les voisins de Moscou et de Kiev. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Gérard Haro.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur de France à Washington et aussi aux Nations Unies. On va beaucoup utiliser votre prisme et votre expertise américaine ce soir, mais permettez-moi de vous remettre sur votre casquette de diplomate et dites-moi ce qui, selon vous, se passe en ce moment. Parce que même si la plupart des face-à-face ont été annulés au moment où on se parle, j'imagine qu'entre diplomates, les choses continuent dans une situation comme celle-ci. Est-ce que tous les canaux restent ouverts? Qu'est-ce qui se passe en fait?
Ben non, justement, en ce moment, je ne pense pas que les canaux restent vraiment ouverts. Vous savez, avant qu'on puisse faire appel aux diplomates, il faut quand même qu'il y ait un moment de tension. Là, on est dans un moment de tension. Chacun est en train de montrer ses muscles. Les Russes l'ont montré. Nous répondons avec des sanctions. Mm-hmm. Je suis à peu près sûr que les Russes vont à leur tour nous imposer des sanctions. Donc, on est plutôt dans un moment de tension. Et les diplomates attendent le moment pour revenir éventuellement.
Et alors, quand on revient justement, Gérard Haro, et quand on se parle, quand on sait la situation d'aujourd'hui, donc quand on sait que ce qu'on dit côté russe ne doit pas être pris comme argent comptant, comment ça se passe? Quand on sait que Poutine joue avec nous, quand on sait ce qu'on peut faire de ces informations-là, comment on fait en fait? Comment ça se transmet à ce moment-là?
Non, d'abord, je pense que tout va dépendre aussi dans les jours qui viennent de ce qui se passe sur le terrain. Mmh. Si la situation s'aggrave, comme vous le savez, Poutine a dit qu'il a reconnu les deux républiques dans l'ensemble de leur territoire. Mmh. S'ils essayent de reconquérir le territoire, les diplomates n'ont absolument rien à faire. Mmh. Donc je crois que là, on va rentrer dans un moment qui peut durer. Où les diplomates n'auront pas leur mot à dire.
Le premier train de sanctions, je le disais, Gérard Haro, européen et puis américain, a été annoncé. D'abord, est-ce que les sanctions américaines ont plus ou moins de poids que les sanctions européennes? On se dit que la suspension de Nord Stream 2 a quand même beaucoup plus de conséquences. Donc, est-ce qu'il y a déjà une forme de déséquilibre là-dessus ou pas du tout?
Ben, il y a une forme de déséquilibre, vous savez, qui est tout simplement le fait que le commerce européen vis-à-vis de la Russie, c'est 8 fois le commerce américain. Et donc, de toute façon, c'est aux Européens, je dirais, qui vont souffrir de loin le plus. C'est nous qui faisons les sacrifices, après tout, c'est notre continent.
Avec, on le disait tout à l'heure dans le journal, le gaz c'est à peu près 40%, hein, le gaz russe 40% en Europe, et là aussi, des différences qui sont énormes entre nous, les Français, qui sommes relativement à l'abri, les Finlandais plus loin, qui sont nettement moins à l'abri. Il va y avoir des différences de ce genre. Est-ce que on peut craindre que ces différences-là fassent que le bel ensemble européen, pour l'instant, ne se fissure au fil du temps?
Alors, bon, d'abord, le gaz, je ne suis absolument pas sûr que les Russes coupent le gaz. Parce que couper le gaz pour les Russes, c'est d'abord se priver de revenus extrêmement importants, mais c'est surtout mettre en cause leur crédibilité de fournisseur, c'est-à-dire que peut-être que les Allemands auront froid cet hiver s'il n'y a plus de gaz russe, mais ça veut dire que les Allemands iront ailleurs. Donc de nouveau, je ne suis pas sûr. Non, la différence essentielle, c'est évidemment le commerce qu'ont les pays avec la Russie, et des pays comme la Finlande à cause de sa géographie, ou l'Allemagne, évidemment, ont des intérêts commerciaux supérieurs à beaucoup d'autres pays.
Et est-ce que vous pensez que ça peut fissurer donc le bel ensemble qu'on voit aujourd'hui entre tous les Européens et entre aussi les Européens et les Américains? Est-ce que c'est ça le grand risque?
Bah oui, vous savez, c'est normal, hein, chacun défend ses intérêts nationaux. Donc à chaque fois que l'on définit un train de sanctions, je suis sûr que ça a été le cas pour le premier train de sanctions d'ailleurs, chacun essaye plutôt de se protéger. Et ensuite, on arrive à un compromis entre les 27 pays, les 27 membres de l'Union européenne.
Du côté...
Et là, la brutalité de Poutine est telle que c'est quand même l'unité qui l'emporte.
Du côté des Américains, Gérard Araud, deux banques étatiques, le financement de la dette, quelques oligarques aussi, ça veut dire que les Américains en ont beaucoup sous le pied? Ça veut dire que Joe Biden a des hésitations sur les répercussions que cela peut avoir? On a l'impression un petit peu d'un verbe très agressif, mais des gestes qui sont nettement plus prudents. Comment analyser ça?
Ben, parce que, vous savez, les Américains étaient en train de se partir à la pointe des pieds d'Europe.
Oui.
Ils ont été rattrapés au basque par les Russes, alors que les Américains ne veulent pas s'occuper de la crise. C'est une crise européenne. Leur problème, c'est la Chine. Et donc, je dirais qu'ils se mettent un peu en deuxième ligne derrière les Européens. Ce qui, d'ailleurs, a sa logique. Hein. C'est quand même, il faut bien dire, c'est quand même une crise européenne. Et comme vous l'avez dit, dans l'introduction, il y a plus la crise de l'administration Biden. L'administration Biden est en train de traverser une tempête.
Et on entend ici, on entend des républicains dire « mais c'est trop mou ». On entend aussi un certain nombre de gens aux États-Unis dire, effectivement, comme vous le disiez, « mais on s'en fiche, en fait, l'Ukraine n'est pas notre problème ». Qu'est-ce qui balance là-dedans et jusqu'à quel point tout cela est en train de gêner encore plus, pardon de le dire comme ça, mais d'appuyer un peu sur la tête de Biden qui est déjà largement sous l'eau?
Ben oui, parce que d'abord, alors, du côté des républicains, au fond, c'est la division entre les partisans de Trump, qui, pour de multiples raisons, sont plutôt des isolationnistes, qui sont en train de dire, donc, l'Ukraine, nous, on s'en fout. Et alors, en plus, il se trouve que dans les querelles, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une dimension ukrainienne dans les accusations contre Trump. Donc, Trump n'aime pas l'Ukraine. Donc, les Trumpistes disent, on n'en a rien à faire de l'Ukraine. Les républicains plus classiques, eux, disent, Biden est faible, il a été faible à Kaboul, il est faible face à la Chine, il est faible face à la Russie. Donc évidemment, c'est une manière de taper sur Biden. Mais du côté des démocrates, vous avez aussi beaucoup de démocrates qui disent honnêtement, c'est pas notre problème non plus. Il y a quand même un profond isolationnisme américain qui est en train de revenir au premier plan.
Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui a donné des ailes à Poutine d'ailleurs? Entre autres, il sait l'Amérique faible aujourd'hui. Il pensait l'Europe divisée, mais il sait l'Amérique faible. Et c'est peut-être ça aussi, c'est même sûrement ça en partie le calendrier de Poutine, non?
Naturellement. Pourquoi aurait-il fait une crise au mois de novembre-décembre 2021 alors que du côté de l'OTAN, du côté des États-Unis, du côté de l'Ukraine, rien n'avait été fait. Il n'y avait absolument rien de nouveau. Et d'un seul coup, il a décidé d'aller de l'avant parce qu'il a senti, justement, un certain repli, voire une certaine faiblesse des États-Unis.
Il y a certains analystes, M. Haro, qui disent que cette crise est plus grave même que celle qui pouvait avoir eu lieu pendant la guerre froide, celle de Cuba, celle de Berlin, etc. Précisément parce qu'il y avait des codes pendant la guerre froide, au moins, et que chacun comprenait ses codes. Là, il n'y en a plus, en tout cas, du côté de Poutine. Est-ce que c'est aussi votre analyse?
Oui, je pense que c'est... Alors, n'oublions pas que au moment de la guerre froide, c'était quand même l'anéantissement nucléaire qui était en jeu. Donc, vous aviez les chars russes qui étaient à deux étapes du Tour de France de Paris, comme on disait à l'époque. Mais c'est vrai que dans la guerre froide, les deux superpuissances, au fond, connaissaient les lignes rouges. Et elles savaient ne pas aller trop loin. Il y avait une sorte de langage, de retenue. Aujourd'hui, il n'y en a plus, parce que vous avez visiblement un Poutine qui ne respecte absolument rien. C'est-à-dire au moment même où il faisait semblant de négocier avec Emmanuel Macron ou avec le chancelier allemand, eh bien, il était en train de préparer le mauvais coup qu'il allait faire le lendemain. Donc, on est dans un monde nouveau. Il n'y a pas de langage commun et ça devient, c'est vrai, de ce point de vue-là, ça devient très dangereux.
On a beaucoup analysé le retour des États-Unis dans l'Europe, justement, comme un retour conjoncturel pour Joe Biden. Diriez-vous qu'il est conjoncturel, ce retour-là, en ce moment, au fait de cette crise-là, et qu'il finira par se désengager à nouveau? Ou est-ce que pour les États-Unis, et peut-être à leur corps défendant, c'est une sorte de piqûre, de rappel, en fait, même si on le veut, on ne peut pas trop s'éloigner de l'Europe? Preuve en est aujourd'hui.
Ah, moi, je pense que c'est la question. Vous posez la question et je pense que personne n'a encore la réponse. Ça va dépendre aussi du cours des événements. Si Poutine s'en tient là, parce que finalement, cette reconnaissance scandaleuse néanmoins ne modifie rien sur le terrain. Donc, ça serait finalement un dénouement relativement favorable à la crise. Alors là, les États-Unis pourraient prendre, si j'ose dire, leur retrait de notre continent. Si en revanche la crise continue, même rebondit, eh bien les États-Unis seront obligés, ne peuvent pas abandonner le terrain européen, et donc seront obligés de se réinvestir en Europe. Ce qui fait d'ailleurs l'affaire des Chinois, d'ailleurs.
Mmh. Et oui.
Il faut bien dire.
Vous croyez-vous à une tentative d'aller plus loin encore que ce qui se passe là aujourd'hui, de faire entrer un certain nombre de chars, voire l'ultime épouvantail de Vladimir Poutine, c'est-à-dire tenter d'aller jusqu'à Kiev? Vous y croyez, vous, le diplomate,
monsieur? Pas jusqu'à Kiev, mais vous savez, on ne sait plus rien. Et c'est aussi ça, la force de Poutine, c'est de surprendre, de prendre. Vous voyez, il fait toujours ce que j'appelle la douche écossaise. C'est coup de force, puis le lendemain il dit je suis prêt à négocier. Et du coup il nous déstabilise, il nous prend toujours un peu à... Et donc aujourd'hui je ne sais pas ce qui va arriver. Parce que sa déclaration, comme je vous le disais, où il reconnaît les deux républiques dans les limites de l'ensemble du Donbass, l'étape suivante c'est pour les marionnettes locales, c'est d'aller de dire à Moscou, aidez-nous à reconquérir notre territoire. Et que va-t-il faire?
Oui.
Et cela, de nouveau, comme tout au long de cette crise, il n'y a que lui qui peut répondre.
Mais ça veut dire que c'est lui le maître des horloges, c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, mais ça, pour le coup, ça ne change pas. Et nous n'avons pas réussi, nous, ni les Américains, à reprendre la main et reprendre le lead sur cette crise-là. Est-ce que, dans l'État, il y a une possibilité pour que nous le fassions, en fait, ou est-ce qu'on sera obligé, de toute façon, d'être toujours derrière Vladimir Poutine?
Vous savez, c'est un peu le problème dans les crises, on en a eu d'autres, hélas, dans les années 30. Si vous avez d'un côté les tenants du statu quo, et c'est nous, et de l'autre, vous avez ceux qui veulent bouleverser le statu quo, c'est Poutine. Et donc, les défenseurs du statu quo, ils sont un peu... ils attendent les initiatives de l'autre. C'est l'autre qui porte des coups au statu quo. Et donc c'est toujours un petit peu dangereux. C'est toujours difficile. Soit vous dissuadez l'autre, et visiblement les sanctions ça dissuade pas. Soit il y a un moment où vous l'arrêtez. Or nous n'allons pas mourir pour Kiev. Et ça les Russes le savent. Donc les Russes ont une certaine maîtrise du calendrier, en tout cas en ce qui concerne l'Ukraine. En ce qui concerne les pays baltes, ce serait évidemment très différent. Mais en ce qui concerne l'Ukraine, ils savent qu'on n'ira pas.
Est-ce que vous y croyez, vous, à cette fameuse stratégie du fou qu'on connaît depuis Nixon et qui consiste à dire je passe vraiment pour un fou, je vais très très loin, comme ça je finirai par avoir quelque chose. Et est-ce que vous y croyez à cette stratégie qu'on finira par donner quelque chose à Poutine, comme ça les choses vont s'arrêter?
Vous savez, il joue un peu sur du velours, comme je le disais, comme il sait qu'en face de lui, vous savez, il est fort et en face de lui, il a un faible, l'Ukraine. L'Ukraine est plus faible que la Russie. Donc c'est à la limite, c'est assez facile. Et nous, on est au balcon, on dit c'est mal, et honnêtement, on fait des sanctions. Or, les sanctions, on le sait très bien, ça ne change rien à la situation.
Jusqu'à un certain point quand même, non, Gérard Araud, si on accentue vraiment sur les sanctions, vous pensez que vraiment ça ne sert à rien? Pas peut-être sur le court terme, mais sur un moyen ou long terme?
Oui, vous savez, au moyen ou long terme, on est tous morts. Et vous savez, les sanctions en général, au bout d'un an ou de deux ans, on apprend à les contourner. Il y a des trafiquants qui font fortune. Et ceux qui feront fortune dans ce cas-là, ça va être les oligarques autour de Poutine qui vont en faire encore plus d'argent. Et c'est la population civile qui va souffrir.
Gérard Araud, on se souvient très bien, sous Obama, d'Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, avec son fameux bouton reset. À l'époque, c'était Medvedev, mais enfin, Poutine était dans l'ombre, évidemment. Donc, essayons de recommencer à zéro. Angela Merkel a fait peu ou prou la même chose, d'ailleurs, aussi avec les Russes, aidée peut-être par le fait qu'elle parle russe et qu'il y a cette relation particulière. En France également, on a un peu le sentiment qu'on a tous essayé la même chose et tous échoué, au fond, exactement sur la même chose face à Vladimir Poutine.
Ben oui, ça veut dire que Vladimir Poutine, vous savez, on dit qu'il y a deux types de dirigeants, le dirigeant réformiste qui veut améliorer la situation de son pays et le dirigeant révisionniste qui lui veut bouleverser l'ordre du monde. On peut évidemment travailler avec un dirigeant réformiste, mais pas avec un dirigeant révisionniste. Je crois que après cet échec, vous avez raison de souligner, aussi bien les Américains que Merkel que le président de la République ont essayé. Je crois qu'il faut conclure qu'en réalité, vous avez un Poutine qui veut bouleverser l'ordre du monde, qui considère que la disparition de l'URSS a été la plus pire catastrophe géopolitique de l'histoire et qui veut revenir là-dessus.
Mais pourtant, est-ce qu'il faut essayer encore ?
Il faut toujours parler. Vous répondra le diplomate.
Ben oui.
Mais il faut toujours parler avec un bâton à la main. C'est-à-dire qu'il faut que nous, de notre côté, nous réarmions. Les Européens, en ce qui concerne la protection de nos systèmes informatiques, militairement par rapport à nos partenaires qui sont sur la ligne de front, peut-être aussi à toutes les opérations de déstabilisation interne auxquelles se livre la Russie, je dirais que le moment, c'est plutôt à se réarmer dans tous les sens du terme, pas seulement avec des chars et des canons, se réarmer et éventuellement voir, avec une position de fermeté et de force, qu'est-ce qu'on peut faire avec la Russie. Mais je crains qu'un véritable nouveau rideau de fer soit tombé sur l'Europe.
Mmh. Un nouveau rideau de fer, vous dites ?
Ah oui, que pour les 10 années qui viennent, ou les 5 années qui viennent, je ne vois pas comment nous pourrions avoir une relation apaisée et sereine avec un pays qui se comporte comme ça.
Une toute dernière chose, quand Moscou dit au sujet des sanctions américaines que la riposte sera forte et douloureuse, est-ce que c'est du bluff ou qu'est-ce qu'ils ont entre les mains, honnêtement, les Russes, pour que ce soit fort et douloureux?
Oui, ça pourrait être le gaz, hein, mais justement, ça me surprendrait parce que ça serait aussi se tirer dans le pied, comme je vous le disais. Vous savez, aux États-Unis, on dit que la Russie, c'est une station-service avec des armes nucléaires. C'est vrai, l'économie de la Russie, c'est moins que le PIB de l'Espagne. Hein.
Mmh, ouais.
La Russie, c'est essentiellement un fournisseur de gaz. De matières premières. Donc, est-ce qu'ils veulent utiliser ces matières premières ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça va être douloureux pour les Européens, parce que les Européens, ça va évidemment diminuer leurs exportations, diminuer leur commerce. Déjà, nous avions souffert des sanctions sur la Crimée, hein, notamment dans les secteurs agricoles. Il va y avoir aussi des sacrifices du côté européen.
Crise à long terme, en tout cas, on l'a entendu et on l'a bien compris. Gérard Haro, merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. Merci vraiment.
Le 18-20, Fabienne Synthèse, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde, ça se passe au Bénin, qui enfin a pu voir les œuvres rendues par la France. Et Isabelle Pasquier-Guetti, elle vous racontera la troupe habituelle qui vous emmène jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logénie.
Britney Spears vend ses mémoires à un éditeur américain pour 15 millions de dollars, autant que Bill Clinton, mais moins qu'Obama.
Le cinéma en VO, Alexis Demeyer. Bonsoir Alexis.
Bonsoir, direction le Caucase tout à l'heure pour un film tourné en langoscète. Ça s'appelle Les Poings desserrés et c'est très bien.
Le monde d'après, Franck Madbon, bonsoir à vous Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Il y a un front dont on parle moins dans la crise ukrainienne, c'est la Biélorussie au nord, un référendum s'y tient cette semaine et Poutine voit ça d'un bon œil.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète ce n'est pas fini, il fait un petit détour par le Royaume-Uni. Alt-J, You and Me sur France Inter.
Dressing in the dark.
Le bruit du monde ce soir est au Bénin, où enfin, depuis dimanche, à Cotonou, on peut découvrir et admirer les 26 objets du trésor d'Abomey, restitués tout récemment, vous le savez, par la France. Ces objets font partie du butin de guerre du général Dodds qui menait les troupes coloniales françaises. Tout a été pillé, on a mis le feu au palais d'Adoné, c'était en 1892. Les Béninois, évidemment, sont déjà très nombreux à venir découvrir leur trésor. Et le reste, c'est Isabelle Pasquier qui raconte.
Dans les rues de Cotonou, de Porto Novo, partout des immenses affiches pour l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. L'événement est hyper médiatisé. Alors on part au palais présidentiel de la Marina à Cotonou, qui a exceptionnellement ouvert ses portes au public pour cette exposition. Et le lieu est symbolique pour signifier la volonté politique du Bénin de faire de cet événement un moment historique. Dans l'exposition « Émotion et recueillement », les Béninois, toutes générations confondues, ont le sentiment de retrouver l'âme de leurs ancêtres qui leur a été volée pendant 130 ans.
C'est les choses de mes ancêtres et c'est vraiment beaucoup d'émotion et de fierté.
J'ai ressenti une émotion énorme parce que je suis devant mes ancêtres.
Pour moi, il y a une grande dimension spirituelle avec tous ces trésors de nos rois. Vraiment, vraiment très ému. Je suis très émotif.
En voyant ces objets-là, je me suis rappelé de l'histoire que mon père me contait et ça m'a fait revivre les anciens moments et ça m'a donné beaucoup plus d'émotion.
Dans ce Bénin, terre vaudou, des descendants des familles royales du Bénin sont venus se prosterner devant les totems des rois. Mais pour Jacob, la restitution doit aller plus loin.
C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté. S'il n'y avait pas eu restitution, il fallait l'inventer parce que des éléments d'un peuple doivent être connus par tout le peuple et détenus par le peuple. C'est une réparation, mais on doit aller un peu plus loin. Il faut tout réparer. Ce n'est qu'une partie restituée d'abord.
Il reste environ 3500 objets du Bénin au musée du Quai Branly. Le Bénin ne veut pas tout récupérer, mais il exige des objets iconiques, comme le dieu Gou qui est au Louvre, ou encore la tablette divinatoire de Guédébé. Ces objets devraient revenir pour l'ouverture du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Danaumé à Abomey fin 2024. Ce patrimoine autour des redoutables Amazones et du roi Béhanzin qui a combattu les troupes françaises va nourrir le récit national du Bénin, un pays multiethnique avec 100 langues et dialectes. Devant le totem du roi Guézo, très ému, Christian se souvient de ses livres d'histoire.
On tient tellement à ces œuvres, depuis tant d'années gardées en France. Pour nous, c'est une fierté, un grand bonheur. Nous les avons étudiées dans nos livres d'histoire depuis le primaire et on était pressés de voir. Surtout le trône du roi Guézo. Dans les années 70, les photos qu'on nous montrait dans les livres d'histoire, ce trône était orné de 4 têtes humaines, 4 têtes d'hommes. Mais là, on ne voit pas les têtes. Nous comprenons pourquoi. Parce qu'il ne faut pas montrer ce qui n'est pas bien. Parce que c'est des 4 têtes des adversaires que le roi a dû éliminer pour prendre le pouvoir.
Les sacrifices humains restent dans l'ombre comme la traite négrière pratiquée par les rois d'Abomey avant le roi Béhanzin avec les colonisateurs.
Là, nous sommes en face du vêtement des soldats. Ces soldats peuvent être des hommes ou des femmes. Parce que dans l'histoire, nous avons connu le corps des Amazones que le colon assimile aux Amazones dans la mythologie grecque. Et c'est leur vêtement qu'ils utilisaient sur le champ de bataille.
Devant un costume de guerre d'une Amazone, on retrouve Ishola Akpo, un jeune plasticien. Il fait partie des 34 artistes qui exposent leurs créations en dialogue avec ces objets du patrimoine. Sa grand-mère était une prêtresse vaudou et dans son travail, il rend hommage aux Amazones contemporaines.
On est dans une société patriarcale, mais depuis que moi, j'ai vu ma mère prendre les grandes décisions dans ma famille. Moi, je suis en fait né dans une société matriarcale. Les Amazones, pour moi, ce sont ces femmes-là qui vont au marché. Ce sont ces femmes-là veuves qui élèvent des dizaines de gosses. Ce sont ces femmes-là qui se réveillent à 5 heures du matin, qui vont aller vendre du pain. Pour moi, c'est des Amazones des temps modernes. Elles n'ont pas des armes, des fusils, des gourdins, tout ça. Mais aujourd'hui, elles se battent pour pouvoir survivre.
Autre regard, celui très acéré de Romuald Azoumé, artiste star, qui s'inquiète pour l'avenir à long terme du patrimoine béninois.
Il y a un nouveau souffle, mais je connais le Bénin. La peur que moi j'ai, c'est que dans quelques années, quand ce leader partira du pouvoir, parce qu'il partira du pouvoir, qu'est-ce que ça va devenir? Le prochain qui va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça, c'est ma crainte. Les oseaux qui vont arriver là, ils vont dire, mais nous, c'est pas notre priorité, hein. Nous, on a besoin de cet argent pour faire autre chose. Et ils vous diront comment on peut payer autant d'argent pour entretenir des morceaux de bois comme ça. Vaudou, en plus. Mais notre salut passe par là. C'est la seule chose que nous avons à partager, notre culture.
D'ailleurs, le Bénin mise totalement sur le tourisme culturel avec la création de 4 musées, en plus du musée d'Abomey, un musée sur le vaudou, un musée d'art contemporain et le musée de la mémoire et de l'esclavage à Ouida. C'est là que des milliers, voire des millions d'esclaves ont franchi la porte du non-retour.
Isabelle Pasquier pour le reportage. Merci beaucoup Isabelle, vraiment. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logénie. Nous sommes dans les rues d'Athènes. Sébastien, la Grèce où Lidl est menacée de boycott pour un vol à l'étalage.
Oui, c'était il y a un peu plus de 10 jours dans la banlieue de la capitale grecque, le 12 février dernier exactement. Une femme de 70 ans, une retraitée, est arrêtée en train de voler dans un supermarché de la chaîne allemande Lidl. Elle cherche à partir sans payer avec dans son cabas 40 euros de viande et de fromage. Des témoins proposent de l'aider, mais le gérant du Lidl est inflexible. Il appelle la police, porte plainte et envoie la petite dame au commissariat. Un drame de la pauvreté qui a ému les médias grecs qui ont fini par retrouver la retraitée. C'est elle que l'on entend au téléphone, la voix masquée. La septuagénaire explique qu'avec sa retraite, il ne lui reste plus que 100 euros par mois pour vivre. « Je voulais juste avoir 2 ou 3 kilos de viande, dit-elle, pour faire un repas avec mes enfants. Ce que j'ai fait est indigne, j'ai tué ma dignité. » L'affaire a fait flamber les réseaux sociaux en Grèce et a déclenché un mouvement de boycott incitant les consommateurs à se détourner de Lidl. Le hashtag « Cancel Lidl » inonde Internet depuis des jours dans le pays. Certains s'en sont même pris physiquement aux vitrines de quelques magasins, cassés à coups de barre de fer. Une campagne qui a fini par contraindre Lidl à annuler sa plainte. L'entreprise a promis d'appeler la retraitée pour mettre fin à l'histoire et limiter les dégâts.
Quand l'Indonésie vend ses plus petites îles aux investisseurs étrangers.
Le ministère des Affaires maritimes indonésien vient d'annoncer en effet cette semaine qu'une trentaine d'investisseurs étrangers étudiaient la possibilité d'installer des complexes touristiques dans les plus petites îles inhabitées de l'archipel indonésien. C'est légal. Depuis 2 ans, l'État peut en effet accorder des permis d'exploitation à des entreprises privées pour 30 années renouvelables. Une privatisation du territoire qui inquiète les ONG. Les ONG de défense de l'environnement tentent de se faire entendre dans les médias indonésiens. C'est la télé nationale qu'on entend là. Elles craignent, ces ONG, la mainmise du tourisme international sur les ressources naturelles locales, sur des zones côtières, des mers et des petits récifs. Mais il y a plus grave que ces permis d'exploitation. La vraie menace que le gouvernement indonésien tarde à prendre en compte, c'est la disparition de nombreuses îles en raison de la crise climatique. Près d'une centaine d'entre elles sont menacées par la montée des eaux, une centaine sur 17 000 îles que comporte l'archipel. Ça fait 0,5%, un faible pourcentage en apparence, sauf qu'à chaque fois, le pays, l'Indonésie, perd une partie de lui-même, une partie de sa souveraineté sur les mers intérieures qui entourent les récifs. La mer, ressource principale de l'Indonésie, ça constitue 75%, 3/4 de son territoire.
Et puis, Sébastien, on termine avec l'un des contrats d'édition les plus lucratifs de tous les temps.
15 millions de dollars, plus de 13 millions d'euros, c'est le montant du contrat qu'a négocié la chanteuse Britney Spears avec la maison d'édition américaine Simon & Schuster, filiale de Paramount, qui achète donc les droits de la publication sur la publication à venir de ses mémoires. 15 millions de dollars, c'est l'équivalent de ce qu'a touché Bill Clinton pour son autobiographie. Le record étant détenu encore par les Obama, Michelle et Barack. 60 millions de dollars de droits pour leurs mémoires respectives, parues il y a 5 ans. L'ouvrage sur Britney Spears, promet l'éditeur américain, racontera tout sur sa carrière, sur sa vie, sur sa famille. Britney Spears revenue au centre de l'attention depuis la sortie il y a un an d'un documentaire sur sa vie brisée par la célébrité. On entend là la bande-annonce d'un documentaire produit l'an dernier par le New York Times, Framing Britney Spears, qui raconte notamment le sort réservé aux jeunes femmes dans l'industrie musicale et le placement sous tutelle par son père de cette icône de la pop américaine déprimée. Britney Spears, depuis, a retrouvé son indépendance. La tutelle a été levée en novembre dernier. Espérons que l'écriture de ses mémoires ne la replonge pas dans la toxique lessiveuse médiatique.
Et oui, merci beaucoup, Sébastien Le Génie. Bien sûr, vous revenez demain et vous partez avec la regrettée Lassa, la Célestine, sur France Inter. C'est formidable, Lassa et la Célestine sur France Inter. Allez, le cinéma en VO, c'est maintenant, puisqu'on est mercredi, et c'est Alexis Lemeyer.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et donc là, on parle en langue ossète. Alexis, c'est sûrement la première fois qu'on entend ça tous les uns les autres. En tout cas, c'est vraiment très très rare. Voici un extrait d'un film qui s'appelle Les Poings desserrés d'une jeune cinéaste russe qui s'appelle Kira Kovalenko. C'est l'histoire d'une jeune fille pleine de vie. Alors c'est un peu raide, hein, le pitch. Une jeune fille pleine de vie, mais souffrant d'une maladie grave, qui tente de se défaire d'une famille encombrante où règne le patriarcat. Mais vous me promettez que c'est vraiment un grand film.
Je vous le promets, Fabienne. L'héroïne des Poings desserrés s'appelle Ada et c'est un personnage de cinéma particulièrement marquant. Cette adolescente brune, aux cheveux courts et aux taches de rousseur, habite dans une ville minière d'Ossétie du Nord. Une région abandonnée, poussiéreuse, traversée à toute allure par des énormes camions. Ada travaille dans une épicerie solidaire et elle partage un minuscule appartement avec son père et ses deux frères. Malgré un grave problème de santé dont on ne saura rien ou presque, Ada est infatigable dans sa quête d'un avenir radieux. Un portrait de femme que l'on doit à la réalisatrice Kira Kovalenko, 32 ans, qui a étudié le cinéma auprès d'Alexandre Sokourov.
Le vrai point de départ, c'est ma lecture du roman de William Faulkner, L'Intrus. Et notamment quand il écrit « Il y a peu de gens qui parviennent à supporter l'esclavage, mais personne ne peut survivre à la liberté. » Je me suis rendue en Ossétie. avec cette phrase résonnant dans ma tête. Et je me suis installée dans une petite ville qui m'a beaucoup inspirée pour l'écriture de mon scénario. Et puis j'ai appris qu'il y avait un projet au Daghestan qui s'appelait « Lettres de petites filles à leur père ». J'ai lu ces lettres anonymes dans lesquelles des fillettes racontent ce qu'elles taisent généralement. Elles racontent pourquoi elles ne peuvent pas parler. Elles expliquent leur malheur. Elles font également un certain nombre de reproches à leur père qu'elles n'oseraient jamais leur dire en face.
Ada, qui est la seule femme du foyer depuis le décès de sa mère, est quasiment placée en détention par un père ultra-protecteur. Kira Kovalenko figure ici le poids familial énorme qui pèse sur la vie des jeunes filles du Caucase.
Parce que derrière cette histoire intime, c'est aussi, c'est surtout le film d'une photographie très précieuse de la Russie actuelle.
Oui, une Russie où les femmes, les homosexuels et les étrangers sont discriminés. Une Russie très pauvre aussi. Dans les points desserrés, la plupart des personnages ont des problèmes de santé qu'ils peinent à soigner, comme s'ils ressentaient dans leur chair le délabrement du pays. En tournant son film en Ossétie, Kira Kovalenko a voulu montrer une population que l'on voit rarement à l'écran.
Le Caucase a une histoire extrêmement difficile, jalonnée de traumas. Sans remonter très loin, en prenant simplement la période contemporaine, il y a eu des guerres, des attentats terroristes. Les gens sont blessés intérieurement et le monde qui les entoure est également meurtri.
Ce film féminin et politique vaut par ce qu'il dit, mais sa valeur formelle est tout aussi grande. Les paysages désolés aux couleurs ocre sont filmés magistralement et les mouvements de caméra suivent avec justesse la fougue de cette héroïne puissante, bien décidée malgré les handicaps en tout genre à vivre sa vie.
Eh bien, ça s'appelle Les Points Desserrés. Pris un certain regard au Festival de Cannes en juillet dernier, Alexis, c'est aussi un film inter que vous nous conseillez. Merci beaucoup.
Fabienne Saint-Ès, le 18-20.
Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, dans cette crise ukrainienne, on parle beaucoup du front du Donbass, évidemment dans l'Est. Vladimir Poutine y a reconnu donc lundi l'indépendance des deux territoires séparatistes pro-russes. Mais la Russie a aussi massé 30 000 hommes au nord de l'Ukraine, en Biélorussie. Or, ce pays organise cette semaine un référendum pour modifier sa constitution et c'est tout sauf anodin. Moscou renforce un peu plus son emprise sur cette Biélorussie.
Alors vous allez me dire, Fabienne, la Biélorussie alliée de Moscou, merci, on est au courant. Depuis la dislocation de l'Union soviétique, Minsk est, c'est vrai, très proche du Kremlin. Le président Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, s'est toujours appuyé sur la Russie. La Biélorussie, ou le Bélarus, un nom plus fidèle aux racines démocratiques du pays, selon les opposants au régime, la Biélorussie, donc, au nord de l'Ukraine, est considérée comme la dernière dictature d'Europe. Moscou lui fournit du gaz bon marché en échange d'un soutien sans faille de Loukachenko, un nostalgique de l'Union soviétique. En Biélorussie, l'État contrôle tout, ou presque. L'anniversaire de la révolution d'octobre 1917 est encore aujourd'hui un jour de fête nationale. Cela dit, Loukachenko a longtemps tenu à conserver une certaine indépendance, en tout cas jusqu'en août 2020. Sa réélection a alors donné lieu, on s'en souvient, à des manifestations massives pour dénoncer un vote truqué. Loukachenko a utilisé deux choses pour consolider son pouvoir. La répression, d'abord. Des milliers d'opposants ont été arrêtés, souvent torturés. Un vol Ryanair a même été détourné vers Minsk pour arrêter un journaliste dissident, Roman Protasevich. Et puis, deuxième outil, le rapprochement avec Moscou. Vladimir Poutine a apporté tout son soutien à Loukachenko.
Mais évidemment, Franck, ce soutien de Poutine a des contreparties.
Ah oui, on connaît l'animal et l'une de ses contreparties, c'est le feu vert aux exercices militaires russes de grande ampleur qui se tiennent en ce moment en Biélorussie. Mais Poutine a aussi fait pression sur Loukachenko pour qu'il modifie la constitution de son pays. Le despote de Minsk s'est exécuté. Il a annoncé fin décembre un référendum constitutionnel qui se tient ce dimanche. Le vote anticipé s'est ouvert hier. Autant vous dire qu'en Biélorussie, le débat politique n'est guère animé et que le résultat ne fait guère de doute. Le oui va donc l'emporter. Alors, quels seront les changements apportés à la constitution biélorusse ? D'abord, ce qui a retenu l'attention, c'est qu'Alexandre Loukachenko va renforcer sa mainmise sur le pays. Il en est à son sixième deuxième mandat et la réforme va lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2035. Pour Moscou, c'est rassurant. Vladimir Poutine peut ainsi compter sur un allié à Minsk pour les 13 prochaines années. Le président russe a besoin de cette garantie à un moment où le pouvoir biélorusse semble vaciller après la vive contestation post-électorale de 2020. Il faut éviter à tout prix une révolution comme celle qui a renversé, son allié ukrainien en 2014, Viktor Yanukovych. Et si ça ne suffisait pas, la nouvelle constitution donnera aussi plus de pouvoir à l'Assemblée du peuple, comme on l'appelle, une sorte de parlement constitué de privilégiés fans de Loukachenko. Dans le pire des cas, ces sages, entre gros guillemets, sauront assurer une transition autoritaire du régime.
Et alors, est-ce que ce référendum va modifier d'autres aspects de la constitution ?
Oui, un point capital va être modifié, Fabienne. Aujourd'hui, l'article 18 définit la République de Biélorussie comme un État neutre qui n'abritera aucune arme nucléaire. Il faut se rappeler qu'en 1994, peu de temps après la dislocation de l'URSS, la Biélorussie, mais aussi le Kazakhstan et l'Ukraine, ont signé le mémorandum de Budapest. Les trois anciennes provinces soviétiques acceptent alors de transférer en Russie les armes nucléaires entreposées sur leur territoire. C'était essentiel pour les États-Unis qui ne voulaient surtout pas se retrouver avec quatre puissances nucléaires au lieu d'une. Washington leur avait notamment promis en échange des aides économiques. Eh bien, cet article de la Constitution biélorusse va être modifié. Le nouveau texte se contentera d'exclure l'agression militaire depuis le territoire, et pas la riposte. Et surtout, le pays pourra en toute légalité abriter des armes nucléaires russes. Loukachenko l'a encore dit récemment, nous sommes prêts à accueillir des armes nucléaires. Tout est possible, y compris l'installation de missiles à courte portée, qui menaceraient directement la Pologne ou les Pays-Baltes. En clair, Poutine a vassalisé la Biélorussie. Il est en train d'étendre les frontières de la Russie à celles de cet État soumis.
Le monde d'après de Franck Madvon, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Franck. Pour nous, ça continue. Le 18-20. La suite, c'est le journal de Cécile Bideau. Juste après, il y a le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous.